Et que Nicole Bacharan, Xavier Guillou qui nous a rejoint, Gaston Kellmann bien sûr, Léonard Pitt le photographe qui a beaucoup erré dans Paris et ses lieux d'antan. Nous serons avec Renaud Machard un peu plus tard et Josiane Savigno avec Jason Glasser en direct. Et je voudrais peut-être que Dominique Sopo, il est encore là Dominique ? Oui.
Alors, encore là.
Quel est l'objet, la figure, l'événement, le film que tu retiendrais qui t'emporte encore du point de vue américain, l'événement emblématique.
La figure, c'est pas un événement, ce serait la figure de Charlie Chaplin, parce que je pense qu'il est représentatif, parce qu'il n'est pas américain.
Il n'est pas américain,
il est britannique. Or, il est symbolique quelque part du rêve américain, d'une épopée américaine à travers la cinématographie, son art, etc. Qu'il représente bien par son art le fait qu'il a été accueilli par l'Amérique tout en étant étranger. Et il a aussi une part d'ombre de l'Amérique qui existe à travers Chaplin, à savoir ce qu'il a vécu après la Seconde Guerre mondiale, le McCarthyisme, etc. Mais finalement, tout ça se finit par une happy end, puisqu'il se réconcilie avec l'Amérique à la fin de sa vie. Et donc, j'espère que les élections américaines se finiront aussi par une happy end quelques jours.
Tu as parlé des temps modernes aussi, excuse-moi, je t'écoutais pas. Parce que
j'ai pas parlé en soi des temps modernes, mais je disais en l'occurrence que Chaplin, par son art, était une personne qui avait su concilier la dureté et l'espoir qui existent dans la société américaine, puisque finalement, ce qu'il explique dans ses films, c'est pas que de la success story, c'est quelque chose de très dur, souvent, les temps modernes, une lumière de la ville, etc.
Merci mille fois, Dominique, d'être resté avec nous. Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, qui va laisser son fauteuil à Léonard Pitt maintenant. Merci d'être venu nous voir. Nicole, à brûle-pourpoint comme ça, si toi, tu devais retenir un objet, on va bien sûr ouvrir maintenant la discussion et sociale et raciale autour de ces élections, mais un objet, un événement, toi qui vis les États-Unis et qui écrit sur les États-Unis, je pense encore à ton dernier livre, Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche.
Sans point d'interrogation, hein, tu remarques.
Alors dis-moi.
Eh bien, ce serait quand même un texte qui est à la bibliothèque du Congrès, la Déclaration d'indépendance, écrite par un jeune homme d'un peu plus de 30 ans et qui planchait sur le texte en 1776 et qui les droits inaliénables, la vie, la liberté, la propriété, et puis qui s'est dit non, quand même, la propriété, c'est pas exaltant. Ouais. La vie, la liberté, la recherche du bonheur. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui fait que l'Amérique peut encore nous faire rêver, parce que ça s'adapte à toutes les cultures, toutes les religions, tous les climats.
Nous parlerons livres et comédie musicale et cinéma tout à l'heure avec Josiane et Renaud Machard. Je vous propose d'écouter tout de suite parce qu'on va faire, on fait blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, bien sûr. Car c'est ça l'épopée américaine. On écoutait tout à l'heure Alabama de Coltrane. On écoute maintenant Summertime de Chet Baker, le plus noir des blancs, un trompettiste, Chet Baker. Jouait comme un noir, disait Miles Davis à propos de Chet Baker. Gaston Kellmann, bonjour.
Bonjour
à Léonard Pitt et à Xavier Guillou.
Bonjour.
Alors, on a évoqué beaucoup de choses tout à l'heure dans les symboles avec Pierre Lelouch et Dominique Sopo. Vous, quel est peut-être l'enjeu majeur? Bien sûr, c'est historique, mais qu'est-ce qui vous passionne dans cette dernière ligne droite, Xavier Guillou, McCain, Obama?
Ben, ce qui me passionne dans cette affaire-là, d'abord, c'est une bataille extraordinaire. Enfin, je veux dire, il y a une mobilisation au niveau américain qui est sans pareil, enfin, en termes de communication, de présence, etc. Ce qui me passionne, c'est que les deux mettent à l'ordre du jour la continuité de l'aventure américaine.
Ouais.
Alors, il se passe plein de choses sur l'Atlantique Nord.
C'est-à-dire le rebondissement, les changements,
renouveau.
C'est un peuple qui met constamment à l'ordre du jour le Born Again, la nouvelle frontière, le New Deal, un New Dream, etc. Et là, les deux sont unanimes là-dessus. C'est comment est-ce qu'on peut rebondir? Comment est-ce que, après le 11 septembre, après Katrina, après la crise financière, qui ont été des véritables bombes nucléaires, enfin, je veux dire, par rapport au centre statuaire que représentait l'Amérique jusqu'à présent. Comment est-ce qu'on peut se redresser? Comment est-ce que l'aventure peut continuer? Et comment est-ce qu'on peut redealer avec tout le monde? Et là, en ce moment, on assiste à des choses absolument extraordinaires. Enfin, il s'est passé des choses sur l'Atlantique Nord, il se passe des choses sur le Pacifique Nord. Ils sont au milieu, tel un porte-avions, et ils sont en train de redéfinir le jeu. Ils sont en train de repenser le jeu. Il n'y a rien qui les arrête. Moi, quand j'ai des Américains au téléphone en ce moment, je leur dis, bon, bah alors, c'est la catastrophe pour vous, parce que c'est le langage français. Ils me disent, non, on a perdu les deux tiers de nos retraites, mais c'est pas grave. On en a vu d'autres, on va se refaire. On a l'impression d'avoir des joueurs de poker qui sont autour de la table, qui ont tout perdu, et qui sont en train de relancer le jeu pour pouvoir faire en sorte que l'aventure continue.
Alors, Leonard Pitt et Gaston Kelman, vous, l'Américain qui avez traqué les lieux emblématiques de Paris, je constate que vous aimez particulièrement les bonnes vieilles rues du côté de la rue Saint-Séverin, ou du côté de la rue du Four, des lieux
c'est le Paris
bien
sympas. Bon. C'est le Paris que je connais, oui.
Vous êtes d'accord avec ce que dit
Oui, tout à fait, tout à fait. L'Amérique va rebondir, mais surtout, ce qui m'excite et mes amis, c'est qu'on a la possibilité de respirer de nouveau.
C'est ça.
De respirer de nouveau, parce qu'après 8 ans de bouche, on étouffe. Il nous a livré dans un tel cauchemar que maintenant, avec la possibilité, moi, il faut dire que je suis pour Obama.
Oui, là, j'ai cru comprendre.
Oui, oui, oui.
Ça,
oui,
je vous annonce.
Sans doute, j'ai cru
comprendre.
Moi, j'avais pas compris.
Oui, oui, oui. Mais il faut dire que, bon, comme je suis d'accord avec Colin Powell.
Ouais.
McCain, c'est un homme honorable. Mais dans ce moment ici où nous vivons, c'est Obama qui va nous donner ce qu'il nous faut.
On verra ça mardi. Gaston Kelman.
Oui, bon, c'est vraiment ça.
Mais qui lui est noir, je ne sais pas si vous savez.
Qui
est noir, mais qui n'aime pas le manioc. Bon.
Je veux dire, c'est vraiment sans méchanceté aucune. Ouais. Mais ce qui m'amuse, entre guillemets, presque, c'est que la peur a changé de camp. Quand je vois, par exemple, le discours de Palin, quand je vois les fouets de McCain, on les sent un peu acculés. Et sans méchanceté aucune, je veux dire, parce qu'évidemment, si c'est les Noirs qui devaient voter Obama, ils n'auraient aucune chance. Obama, c'est le bond maintenant vers la post-racialité aux États-Unis, où on est passé de Rosa Parks à Obama, des champs de coton, effectivement, à la Maison Blanche.
On n'est plus dans la violence des droits civiques. Et
non,
dans,
on n'y est plus.
Dans les free riders.
On n'y est plus. Et je pense qu'aujourd'hui, et que ce soit Hillary Clinton ou McCain, la seule personne qui les aurait épouvantés, c'est Obama. Je pense qu'aucun blanc, entre guillemets, ayant même la caractéristique d'Obama, 47 ans, jeune, beau, diplômé, n'aurait eu autant de puissance à les déstructurer.
On parlera de la culture tout à l'heure, dans un instant, et on se demandera si cette puissance de feu de la culture américaine est toujours aussi forte, si elle ne se tourne pas davantage un peu vers l'Europe. On l'a vu avec Sean Penn, qui est venu nous faire un petit satisfait-sit avec Entre les Murs. Hein, c'est intéressant, mais Nicole Bacharan, est-ce que ce que l'Amérique a perdu du point de vue financier, on le sait? Elle est endettée, c'est une terre endettée qui appartient quand même, qu'on le veuille ou non, à la Chine via les bons du Trésor. Est-ce que cette finance a basculé vers Obama? Est-ce que la présence de Colin Powell et les 600 millions de dollars dépensés témoignent d'une bascule du capitalisme américain qui se dit c'est notre dernière chance pour s'en sortir?
Les financiers votent aussi, hein, ils votent avec leur carnet de chèques. Les grandes entreprises votent en donnant des sous à un candidat ou à un autre. Et généralement, il faut bien le dire, elles donnent aux deux, parce qu'il faut quand même pouvoir avoir accès aux vainqueurs et tenter de
voilà,
de
c'est
se faire
impressionnant
entendre.
Quand même ce qui a été donné à Obama.
Il y a beaucoup de grands donateurs qui ont donné de l'argent à Obama et énormément des millions de gens qui donnent 2, 3, 4, 5 dollars. Donc c'est aussi une sorte de vote. Il y a quelque chose, je trouve, de très choquant à avoir une campagne électorale qui coûte autant d'argent dans un pays où il y a quand même beaucoup de misère. Et en même temps, je vois que les gens sont fiers de participer avec leurs dollars, même si c'est 1 à 10 dollars, d'être celui aussi qui contribue à cette campagne, qui agit politiquement à travers la contribution financière.
Xavier Guillou, sur cette question de la finance, et peut-être aussi sur le fait qu'il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent que Obama est un homme qui, du point de vue de la politique étrangère, ne sera pas fondamentalement différent du mandat républicain, même s'il veut se retirer d'Irak dans les 16 mois. Il n'y a pas de grande différence.
Il n'y aura pas beaucoup de différence. La seule différence sera sur le plan fiscal. Je crois qu'il faut faire très attention aussi à la confusion qu'on peut faire entre ce qui se passe à Main Street et à Wall Street. Il y a des jeux qui sont très différents. Enfin, la population a des préoccupations aujourd'hui qui ne sont pas des préoccupations de réforme du capitalisme comme on peut avoir chez nous ou autre. La préoccupation des populations, c'est comment je vais payer ma maison, comment je vais payer mes études, comment je vais payer ma santé, etc. Extrêmement basique. Et comment est-ce qu'on peut redresser tout ça et se refaire? Les financiers, eux, la grande finance ou la grande banque, c'est comment on peut réarticuler la martingale, quoi. Jusqu'à présent, la martingale avait été, comme je vous l'ai dit, plutôt organisée avec l'Europe. Là, ils ont inventé un jeu depuis une dizaine d'années qui est avec la Chine. C'est les Américains qui ont inventé ce jeu-là. Il faut quand même pas penser que ce sont les Chinois qui sont en train de prendre le pouvoir, comme on aurait tendance à le croire aujourd'hui.
Enfin,
c'est les Américains qui tiennent quand même le leadership.
L'Europe s'y met aussi, hein, avec les fonds souverains.
Oui, mais enfin, on est quand même très suiveurs. Nous, vous savez, on est le wagon restaurant de ce TGV qui est celui de la mondialisation qui s'est lancé il y a une vingtaine d'années. Et la locomotive, c'est quand même l'Amérique. Celui qui nourrit l'Amérique aujourd'hui, c'est l'Asie. Et le wagon restaurant, là où il y a le plaisir, là où on a la jouissance, c'est quand même l'Europe.
Nicole.
Et c'est vrai qu'on aspire tous, je crois, à une régulation, à un petit peu plus d'éthique et de propreté, j'ai envie de dire, dans le système financier. Et en même temps, c'est pas forcément négatif qu'on dépende effectivement complètement les uns les autres. Je trouve que quand on a vu la Russie en grande difficulté avec la crise financière, ça nous a rappelé au fond qu'ils avaient aussi leurs faiblesses, qu'ils pouvaient pas nous tourner le dos et que c'était pas un colosse absolument invincible, qu'ils avaient besoin de nous. Et de même, les Chinois sont dans l'économie mondiale, c'est plutôt sain, je crois.
Alors, Léonard Pitt nous a dit qu'il étouffait depuis des années et que là, il commençait à respirer. Cher ami, il va falloir attendre mardi quand même, hein, pour ouvrir la fenêtre.
Je ne respire pas encore. J'espère respirer.
Vous espérez respirer. Moi, je voudrais que Gaston Kelman nous donne la température, là, je dirais, et volontairement, du côté de la porte de la chapelle. Est-ce que c'est aussi un message, si Obama devait être élu, qui est envoyé à l'Afrique? À l'Afrique francophone, je veux dire, en région parisienne, ailleurs, aux Antilles, est-ce que c'est un message aussi qui transgresse, enfin qui traverse le...
Oui, il y a plusieurs dimensions. La première dimension, c'est que Obama est américain, ça nous a pas échappé, et que attendre qu'il va bouleverser l'Afrique, évidemment, c'est un fantasme, même pas un rêve, c'est un fantasme, parce que d'abord, l'Afrique ne se bouleversera que quand elle-même aura les moyens de se bouleverser.
Non, mais enfin, un noir dans le moteur, au cœur du réacteur, c'est quand même.
Oui, non, mais je veux dire que c'est pas parce que la France où l'Occident n'a pas aidé l'Afrique, que l'Afrique se retrouve là aujourd'hui, dans l'autre sens du terme, même si après il y a eu des prédations et tout le reste, mais il y a eu beaucoup d'argent déversé qui n'a pas servi à grand chose. Et je ne voterai pas Barack Obama pour qu'il soit un sorcier. C'est pas ça que j'attends de lui. C'est pas ça que j'attends de lui. Il a abandonné depuis longtemps. Mais du côté de la porte de la chapelle, effectivement, c'est là que tout va se jouer. C'est là que tout va se jouer. Et c'est vrai que quand j'entends, par exemple, en France aujourd'hui que 93% des Français voteraient pour Obama, ça, je me dis, bon, c'est de la bonne conscience qu'on essayait de pêcher à vil prix, quoi. Parce que, évidemment, si on met ces
mêmes Français. Tous cher ami, vous savez bien.
Non, si on met ces mêmes Français aujourd'hui à New York ou à Washington, je suis pas sûr qu'ils mettront dans l'urne le Obama. Mais par contre, pardon, s'il vous plaît, je termine. Mais par contre, il y a un mouvement très très fort en France aujourd'hui de sortie de l'enfermement coloriel, de sortir aussi d'une histoire qui voudrait qu'on soit enfermé dans des boulots spécifiques et le vote d'Obama. Et comme celui de notre immigré national, quand même, n'oublions pas que Nicolas Sarkozy était immigré.
Ah
c'est pas vrai? J'ai dit une connerie?
Non, pas du tout. Mais pour une fois qu'on n'en parle pas, on parle d'Obama aujourd'hui.
Non, mais c'est pour dire qu'il y a des immigrés qui prennent le pouvoir en France et que l'immigré coloré. L'immigré coloré pourra aussi le prendre grâce à.
Nicole, en conclusion, oui,
avant la
culture.
Obama nous fait rêver à un monde où la couleur de peau ne se voit plus, ne compte plus.
En France,
plus.
Oui.
Partout. Partout. Si, je crois que c'est pour ça que
à
le monde.
La chapelle.
C'est son génie.
Et je crois que c'est pour ça que le monde s'est entiché d'Obama sans le connaître, parce que tout d'un coup, la couleur de la peau peut-être ne compterait plus. On est quand même dans un siècle où malheureusement on s'entre-étripe entre ethnies voisines, parce qu'on n'a pas tout à fait le même nom, la même religion.
Et ça a été le génie de cette campagne aussi.
Et Obama, il fait rêver à ce monde où la couleur de peau ne se voit plus. S'il est élu, dans un an, on parlera du président américain et non pas d'un président noir. Et ça ne se verra plus.
Xavier, oui, avec quand même une nuance dans tout ça, c'est qu'entre le blanc et le noir, il y a l'hispanique. Dont on ne parle pas et qui va jouer un rôle non négligeable dans le vote entre Obama et McCain. A priori, il est plutôt vers Obama. Mais on a une révolution démographique, une mutation démographique aux États-Unis qui est colossale, avec des WAPS qui ont de moins en moins d'emprise.
Est-ce qu'il aura les moyens, vous, le gestionnaire des crises, est-ce qu'il aura les moyens, avec 25 milliards de dollars, dit-il, pour du côté du secteur automobile, d'endiguer cette vague terrible qui met à la rue des milliers de gens? On se demande si Ford...
Alors,
va pas disparaître de la circulation.
Alors là, on va sur une question fondamentale, c'est le problème du changement de modèle mental. C'est-à-dire que les États-Unis se sont construits sur une société fordisme, de la production de masse, de la consommation de masse, voire de la destruction de masse, etc. C'est ce modèle-là, très énergétivore, qui a été construit sur de la surconsommation, du surendettement, etc., qui est en panne aujourd'hui. Hein. Et c'est là où la mutation qui est en train de se passer avec toute cette relation avec l'Asie et sur un autre monde, qui est le monde de demain, qui n'a rien à voir avec le monde de la modernité du 19e et du 20e siècle, est une grande question. Et comment est-ce qu'ils vont piloter cette mutation entre l'ère moderne et puis celle de cette intelligence partagée que l'on voit émerger au travers des systèmes d'information, c'est autre chose. Une des grandes, pour moi, un des grands signaux forts de cette élection, c'est que Obama, il a eu une grande partie de son argent par Internet. Parce qu'on parle beaucoup des grands financiers, etc. Les fameux $5 ou $10, c'est par Internet. Et c'est cette nouvelle révolution des systèmes d'information, cette nouvelle ère qu'il porte, qu'il incarne, Obama.
Je suis obligé de vous arrêter, les enfants, parce que je voudrais qu'on parle de culture dans un instant. Je vais citer le livre de Léonard, bien sûr, Pete, Paris, un voyage dans le temps, image d'une ville disparue. C'est chez Parigram et c'est superbe, absolument superbe. Un petit mot, Gaston Kellman, court.
Oui, vraiment très court, ce que je voulais dire. N'allons pas très vite en besoin, Yandy. Disant que la couleur n'existe plus ni aux États-Unis.
Ça fait rêver.
Mais je veux dire que Obama ne se serait pas vu obligé de tenir quand même un discours sur la race s'il n'avait pas senti que le danger était là, qu'on l'attendait à ce piège.
Merci à toi, Gaston Kellman. Merci à vous, Léonard Pitt.